Voilà, alors, nous avons trois interventions. La première va être faite par Lili Razzatunello. Elle se présentera elle-même sur la mobilisation et l'organisation des sociétés civiles à Madagascar. Dans le régime politique et en période de crise, puisque vous savez que Madagascar est actuellement dans une crise politique importante. Je lui cède la parole.
Alors, merci. Je vais essayer d'être assez brève pour qu'on puisse discuter. Comment une société civile se mobilise en période de crise politique. Alors, je vais d'abord présenter un petit peu très court Madagascar sur le plan de la situation économique et puis sur la situation politique, qui a entraîné, si vous voulez, les différentes crises politiques que Madagascar a connues. Il y en a pas été 5. Depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 50 ans. Et la crise la plus importante sur les 5 ou 6, c'est vraiment la crise depuis 2009, depuis janvier 2009. Et ensuite, quelles sont les. Donc, comment la société civile s'est mobilisée, comment nous avons fait, quels sont les obstacles par rapport à ce travail de mobilisation de la société civile, et enfin, quelles sont les perspectives, qu'est-ce qui est nécessaire pour que cette participation active dans une société civile en période de crise peut être plus efficace, peut apporter véritablement un changement. Alors, Madagascar, c'est un pays qui se trouve dans l'océan Indien, pas très loin du continent. C'est un pays qui est très connu comme étant très riche, avec des potentialités à la fois du sous-sol, du climat, économique, humain aussi. Et puis, or, c'est comme un des pays les plus pauvres du monde. Et ça, depuis 50 ans, il y a eu des moments où Madagascar s'est un peu relevé. Après, au moment où ça arrive, tout d'un coup, il y a ces crises cycliques, politiques, qui viennent donc véritablement saper des développements. Alors, ce qui fait qu'il y a à peu près depuis que la crise existe, le taux de pauvres à Madagascar a augmenté. Parce qu'on arrive avec 67,5%, alors qu'en 2008, c'est descendu dans les 68% en 2008. Et là, justement, il y a eu une dégradation importante de cette pauvreté. Alors, je ne vois pas tous les chiffres qui démontrent cette pauvreté, mais juste pour vous dire que, à peu près, le taux d'alphabétisation est de 71% dans le primaire, 17% dans le secondaire, et on dit à peu près 6% dans le supérieur. Ça, parce que c'est aussi une cause structurelle, si vous voulez, de ces crises permanentes. Et puis, évidemment, aussi la pauvreté, comme je viens de le dire. Et évidemment, cette pauvreté, ces situations amènent des inégalités très fortes, un écart entre la minorité des très riches, ça c'est propre parce qu'ils ont des minorités à se faire, et la grande majorité de la population de vit, qui ne pourra plus essayer de survivre. Et que la crise, donc, a encore renforcé ce problème. Alors, sur le plan politique, on peut dire que c'est vraiment 50 années de recouvrement de l'indépendance. Que nous avons eu l'indépendance, on dit que nous avons recouvert l'indépendance. C'est un pays qui était indépendant bien avant la colonisation, qui était reconnu internationalement, puisque nous avons des ambassadeurs à Londres, aux États-Unis, en Allemagne, donc on a été reconnus. Donc, mais pendant ces 50 ans, si vous voulez, comme je disais, ce sont ces crises. Alors, elles sont pratiquement les mêmes revendications. C'est-à-dire que c'est abus de pouvoir, souveraineté économique, amélioration des conditions sociales, ce sont les revendications qui revenaient systématiquement. Ensuite, ça montre aussi que ce sont une société malgache qui est bloquée, ça sur le plan politique. On a eu, sur 50 ans, 12 révisions constitutionnelles. 12 révisions constitutionnelles. Et ce sont des révisions qui se sont faites pratiquement toujours pour justifier les prises de pouvoir. C'est ce que disait Claude tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une mainmise de pouvoir par donc une minorité, une personne et tout ce qui entoure cette personne. Et si vous voulez, c'est cette situation. Alors si vous voulez, c'est dans ce contexte, même si quand même je peux vous dire que l'ancien régime, donc de M. Habermann, il y a eu des progrès qui sont indéniables sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur le plan des infrastructures, mais sur le plan de la gouvernance, c'est vrai qu'il y a eu donc des abus. Il y a eu des abus, donc c'est clair. Et ce sont donc ces abus, si vous voulez, qui ont amené un mouvement dans la capitale, où ça a été vraiment circonscrit dans la capitale, pour réclamer par exemple l'ouverture de chaînes de radio et de télévision de l'ancienne maire de la capitale, pour réclamer par exemple au niveau un peu plus de transparence sur certaines décisions. Et donc c'est ça qui a amené cette crise en 2009. Je vais très très vite là, par rapport à ça. Et si vous voulez, c'est cette crise politique qui, comme disait une amie, ce n'est pas seulement une crise politique, c'est vraiment une crise généralisée. C'est à la fois une crise d'identité, de vision sur la société malgache que souhaite la population. Donc, vous voyez, c'est quand même des questions de fond en matière de construction d'une société. Donc, c'est ça. Et c'est dans ce contexte qu'il y a eu donc un coup d'État, un peu raccourci parce que ça va être trop long. Donc, il y a eu un coup d'État au mois de mars 2009. Mais avant ce coup d'État, il y a eu donc ce mouvement. Et quelques citoyens malgaches, ma compatriote qui vient d'entrer, nous nous sommes dit, c'est pas possible. On ne va pas, nous citoyens, rester comme ça, spectateurs. Il faut que nous fassions quelque chose avant que l'irréparable se produise. L'irréparable, c'est quand même produit. Mais malgré tout, on a mobilisé donc, la société civile à partir de 9 personnes, des syndicalistes, de 5 citoyens, des membres de l'organisation, par exemple la plateforme nationale de la société civile, nous sommes retrouvés pour dire qu'il faut constituer quelque chose et être acteur du changement qui va peut-être se passer. Et ce qui fait que, à partir de ça, on a mobilisé véritablement la société civile. Et je vais vous donner quelques chiffres de mobilisation. Et ça, c'est vraiment, c'est venu de quelques personnes. Un système de réseau, on a appelé les gens à se constituer pour être acteurs d'un changement possible amené par donc, le mouvement. Et donc ce qui fait qu'on est arrivé à, on dit un peu, 1,040,000 personnes mobilisées à travers les différentes entités, notamment donc cette plateforme nationale de la société civile. Donc il y a eu des syndicats. Il y a eu le groupement des industries de Madagascar, c'est-à-dire le patronat, a rejoint le mouvement, donc si vous voulez, les syndicalistes. Donc ça a été véritablement une véritable mobilisation. Alors, si vous voulez, en plus, ce qui est important aussi dans tout ça, c'est que cette société civile, cette organisation de la société civile, différents domaines, les différents secteurs. Les droits de l'homme, la santé, l'environnement, le développement, autrement dit, les syndicats, les confessions religieuses, donc le secteur privé, etc. Ça, c'est très important en matière de mobilisation. Alors, quelle a été la démarche, la stratégie de. Alors, aîné, excusez-moi, plus important, aîné donc le comité, le collectif, pardon, des citoyens et des organisations de la société civile, c'est-à-dire les CCOC. C'est un collectif donc, qui est né de cette mobilisation. Alors, quelle était notre démarche, notre stratégie? Alors, trois stratégies ont guidé notre démarche, hein, la démarche du collectif. Trois, c'est-à-dire que créer une synergie de toutes les forces vives de la société, c'est-à-dire à la fois la société économique, la société civile et, pas encore tout à fait, on a un peu laissé de côté la société politique d'abord, puisque c'était cette société-là qu'on voulait à tout prix sensibiliser, armer à être des citoyens, de meilleurs citoyens. Donc d'abord une synergie, deuxièmement une analyse objective de la situation. Pour nous c'était essentiel. C'est pas l'analyse de la situation en analysant quelles étaient les aspirations profondes de la population qui a mené à cette situation-là. Donc on a décortiqué, on a cherché. Alors je ne vous dis pas tout ça parce que ça va être peut-être long, mais quand même il y avait une aspiration profonde de la population pour un changement. Ça c'est clair en matière donc de gouvernance. Troisième stratégie, c'est l'attachement au principe de la neutralité et de l'impartialité de la société civile. Pour nous, c'était le plus dur, mais on ne sait pas du tout ça. Oui, par rapport aux politiques partisanes. Voilà. Non. C'est vraiment la neutralité et l'impartialité du collectif hein, dans son travail de recherche, de sortie de crise à Madagascar. Donc ça, ce sont les stratégies. Et quels sont les objectifs? Ben, il y a deux principalement objectifs. D'abord, c'est une solution de sortie de crise consensuelle, inclusive et pacifique hein, de tous les acteurs politiques, partisans, politiques, des partis politiques, ce qu'on appelle dans la crise les mouvances politiques. Et puis deuxièmement, comme objectif, c'est la participation active de la société civile à travers donc, le CCOC dans la résolution de la médiation. Et ceci donc sous l'égide à la fois du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes et de la communauté internationale. Puisque la communauté internationale va à travers l'Union africaine et la SADC, puisque Madagascar est membre de la SADC. Faire la médiation. Et puis il y a eu plusieurs activités que nous avons faites. Donc, je cite rapidement. D'abord, nous avons rédigé un schéma minimal de sortie de crise pour que tous les membres du CCOC adhèrent à ce schéma. Ce n'est pas facile. Hein. Vous savez que dans une période de crise politique, la société civile est très, sollicité par les politiques et instrumentalisé par les politiques. Et donc, pour nous, c'était qui nous rassemblait, c'est ça. Voilà, nous entendons tous sur ce schéma de sortie de crise, et bien on adhère donc à ce schéma. Et nous avons présenté ce schéma au départ aux deux protagonistes, parce que c'était d'abord deux protagonistes, l'ancien, le président en exercice et donc M. Antoine qui donc voulait en fait prendre le pouvoir. Mais ce qui était à l'époque donc maire de Tanana. Deuxième activité que nous avons faite et deuxième phase, c'est alors on a évidemment fait la rencontre de tous les acteurs politiques hein, pour présenter ce schéma. Par la suite, la charte de la transition qui a été élaborée par nous aussi. Ensuite, mais dans la deuxième phase, nous n'avons aussi pas fait parallèlement à ça, puisque pour nous, il y a la résolution de sortie de crise immédiate, mais il y avait aussi pour nous le besoin de voir plus loin, c'est-à-dire de créer véritablement une dynamique, un processus de changement fondamentaux sur le plan de la démocratie et sur le plan donc, des valeurs républicaines, c'est-à-dire vraiment refondation de la société à la fois. Et nous avons fait tout un travail d'interpellation, puisqu'il y a eu le coup d'État, donc c'est un régime de fait aujourd'hui qui est là, et nous avons fait tout un travail aussi d'interpellation et de dénonciation des abus qui ont été faits par le pouvoir actuel, alors que le pouvoir actuel était supposé apporter un changement. Or, les pratiques sont les mêmes pires, puisque véritablement, on a vu des abus.
Je crois qu'il faut qu'elle puisse traduire, parce que c'était important ça. Est-ce que tu peux redire juste là ce que tu viens de dire, que c'était important la dénonciation et tout ça, parce qu'elle n'a pas traduit.
Alors, si vous voulez, donc, on a fait aussi donc parallèlement, parallèle au travail de médiation, hein, de résolution de la crise immédiatement, eh bien, on a fait tout un travail d'observation de la manière dont le pouvoir de fait gérait le pays. Et donc, on a dénoncé les abus en matière de droits humains, en matière de gestion financière, en matière de tout ce qu'il y a eu comme trafic des ressources naturelles à Madagascar depuis 2 ans. C'est effrayant. C'est donc pire que ce que le régime précédent a fait. Donc ça, nous avons dénoncé. Et ceci, donc, je le redis, c'est donc tous les acteurs, aussi bien des syndicats que la société civile d'une manière générale, qui participent donc à ce travail. Peut-être passer rapidement, puisque vous ne me donnez pas la parole. C'est très difficile de parler d'une situation comme ça aussi, d'ailleurs, nous résumer, si vous voulez, parce que ça ne donne pas suffisamment le travail fourni par la société civile. Enfin, donc, tout le travail de médiation pour que les politiques parviennent à un accord politique pour sortir de la crise, c'était extraordinaire. Vraiment, en tout cas, pour moi, ça a été un moment. Une période très très forte, parce que là, pour une fois, la société civile s'est engagée en tant que société civile pour participer à la reconstruction, à la refondation de la société malgache. Donc il y a tout ce travail. Et puis, donc,